la création. Et nous avons souhaité, pour les membres de Futurs Composés, mais aussi ouverts à d'autres, organiser des rencontres de manière à pouvoir réfléchir à des problématiques de la création musicale,
mais avec des invités qui n'étaient pas forcément dans notre cours de récréation, qui venaient d'ailleurs, qui nous ouvraient des horizons différents, tant sur le plan artistique qu'éventuellement géographique. Et donc ça fait, je crois, ça sera aujourd'hui la 10e rencontre que nous proposons, avec chaque fois des invités qui nous emmènent à réfléchir à la création en ouvrant des portes sur des choses qu'on connaît moins et en nous faisant réfléchir et échanger. Alors en fait, donc cette commission, je voudrais dire que Laurence Dune, qui est là, a accepté de prendre le relais, donc je la remercie. Et donc la prochaine fois, c'est elle qui vous fera un petit laïus d'introduction. Voilà. Et cette matinée, elle nous a été proposée par Alexandre Lévy, qui depuis déjà longtemps et avec une bonne ténacité nous dit la création musicale pour les tout-petits, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à réfléchir. Et donc nous souhaitions faire une rencontre déjà depuis un certain temps, et nous avons le semestre dernier loupé une occasion. Et donc on est très heureux de pouvoir réaborder cette problématique aujourd'hui. Alors je crois qu'il faut déjà remercier le Classico Vert, parce que c'est grâce au festival que nous pouvons être là dans ce lieu magnifique, et grâce au fait que tu y es un intervenant et que nous allons voir ton travail tout à l'heure en fin de matinée. Voilà, et donc notre invitée, c'est Brigitte Lallier-Maisonneuve, et qui est directrice du théâtre Athénor, et qui va justement nous renvoyer sa réflexion et nous emmener peut-être sur des domaines un peu différents que ceux que nous connaissons. Et donc Laurence Chave, qui travaille souvent avec toi Alexandre, et qui réfléchit à tout ça et qui dirige aussi une compagnie, va modérer cette matinée. Voilà.
Surtout.
Voilà, alors je pense qu'on est un petit peu pris par le temps parce que l'installation elle ouvre à midi, c'est ça? Il faut qu'on...
Oui, enfin après.
Et donc ce serait bien qu'on...
Ça serait bien qu'on soit pas vraiment plus tard que midi 10.
Voilà, et donc aussi qu'il y a un temps qui soit gardé pour les questions, pour qu'il y ait un échange, parce que c'est un petit peu l'idée, c'est que tous les gens qui sont là puissent dire ce qu'ils pensent de tout ça et vous interroger. Donc Laurent, je te repasse le micro.
Bonjour à tous, merci d'être là avec nous. Donc quand Alexandre a proposé sa thématique, moi je participe au groupe Rencontre. J'ai tout de suite proposé de l'accompagner, de présenter ça et de travailler avec lui sur effectivement cette création musicale et petite enfance. Donc on avait envie en fait de parler au niveau de Futurs Composés et au niveau des créateurs. De qu'est-ce que ça voulait dire monter un projet pour la petite enfance. Donc la petite enfance, pour juste être bien d'accord tous, c'est officiellement 18 mois, 6 mois, 6 ans, puisque on aime bien mettre des cases. Voilà, l'idée c'était un spectacle jeune public avec vraiment des enfants petits. On verra après même qu'on peut descendre en dessous de 18 mois. Et puis qu'après 6 ans, on est dans d'autres problématiques. Donc c'était pas celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc l'idée dont je vais faire parler mes deux intervenants, effectivement, qui était donc effectivement d'expliquer un peu dans toute l'offre culturelle s'il y a ou pas des œuvres spécifiques qui sont liées à ce public, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, qu'est-ce que ça induit au niveau des créateurs, au niveau du compositeur, au niveau de tout l'offre que nous on peut proposer. Et puis après on verra aussi des exemples un petit peu précis de réalisation, de conception, de choses comme ça, à la fois avec le travail d'Alexandre et le travail de Brigitte, qui sont quand même somme toute assez différents par rapport à ce public spécifique. Voilà. Donc on va commencer peut-être par les dames. Donc, Brigitte peut-être va nous proposer, dames, effectivement. On avait posé des questions, donc quels enjeux, concevoir un programme dans ce cadre-là, c'est quoi, d'où ça vient aussi pour toi, en l'occurrence, ce travail, s'intéresser à ce public-là, est-ce que ça a des choses un petit peu différentes ou pas par rapport à un public, à un spectacle tout public, hein.
Bonjour. Bien, bonjour. Quand Futurs Composés, Laurence, m'ont proposé de participer à cette matinée,
J'ai accepté, j'ai dit oui, parce que souvent on parle de ces questions entre nous avec le réseau jeune public ou petite enfance, et que je trouvais vraiment intéressant de partager ces problématiques avec les musiciens, les compositeurs. Et que aujourd'hui c'est un peu le centre de, enfin une grosse partie de mon travail, qui est donc au sein d'Athénor d'accueillir et d'accompagner, d'inviter des musiciens, des compositeurs, pas que, mais quand même l'entrée est première et quand même celle du son et de la musique, à la rencontre de la petite enfance, ou en tout cas à entrer dans des processus ou de création, je dirais, au cœur de l'enfance, enfin, quelque chose à cet endroit-là. Et en fait, ce qui est... alors, bon, moi, je viens de la musique et du théâtre, et effectivement, j'ai rencontré la toute petite enfance par l'écoute et par la relation au son. Et pas du tout au départ par l'envie ou l'idée de faire un spectacle pour, mais plutôt d'être être en relation avec, et comment la relation avec la toute petite enfance, la rencontre avec les tout petits vient questionner, provoquer, remettre en mouvement les envies, le geste artistique, comment ça vient re-questionner. C'est en fait à cet endroit-là, l'endroit d'une recherche, d'une espèce de liberté de recherche, un endroit laboratoire, et c'est vraiment... mais je vous en prie, bonjour. C'est à cet endroit-là que c'est vraiment passionnant. Mais peut-être... je m'arrête là, il ne faut pas que je parle trop longtemps, c'est ça que tu m'as dit.
C'était très intéressant.
voilà, peut-être on peut déjà, comme ça, l'endroit où ça se pose,
c'était ça ta question. C'était ça la question. Je pensais que tu aurais présenté effectivement peut-être Athénor aussi, du coup, en tout cas le début, justement, comment c'est...
Oui, Athénor est un lieu de... un lieu singulier de création, de production, de diffusion, où on travaille avec un collectif d'artistes associés au projet. Collectif ouvert, bien sûr, ce ne sont pas des gens permanents, mais des gens avec qui on travaille comme ça régulièrement, on s'accompagne mutuellement. Ces artistes-là nous font rencontrer d'autres artistes qui viennent s'agréger à l'histoire et inventer d'autres projets. Voilà, on essaie d'être un lieu de... d'invention, de création, et aussi lié, puisqu'on est à Saint-Nazaire et à Nantes, j'ai pas dit ça, et donc aussi dans des aventures reliées à des publics. Donc on est la maison, le centre, c'est effectivement Saint-Nazaire et Nantes, et à partir de là, on mène des, ce qu'on appelle des chantiers nomades dans pas mal d'endroits, et avec un certain nombre de lieux en France ou ailleurs, voilà. Ça va.
Alors, à toi. Alors bonjour. Donc, en fait, c'est vrai que j'ai proposé cette rencontre depuis pas mal de temps, parce qu'en fait, voilà, dans mes activités musicales, je suis venu à travailler sur des projets, jeunes publics et particulièrement petite enfance, et c'est un travail que je connaissais absolument pas avant. Et j'ai vraiment découvert tout un tas de possibilités, d'ouvertures. Et en fait, il y avait une vraie corrélation entre le type de travail que je défendais, le type de dispositif que je mettais en place, et justement des propositions spécifiques liées à la petite enfance. Et donc c'est au cours de plusieurs résidences, de plusieurs créations que j'ai été amené à faire pour des compagnies, notamment la compagnie AMK, que j'ai vraiment découvert tout un univers, et ça m'a ouvert, je dirais, une palette de recherche, une palette musicale, et aussi ça m'a permis d'essayer plein de choses que je pensais pas être possible. Et surtout, c'est que moi, ce que je trouvais intéressant de proposer, c'était de dire voilà, j'ai fait un compositeur d'aujourd'hui peut s'intéresser à ces propositions artistiques, peut proposer des choses, peut s'ouvrir à ce type de public. Bon, je crois que c'est déjà fait beaucoup. Il y a beaucoup de propositions qui sont vraiment très très convaincantes. Mais voilà, je voulais partager un petit peu cette expérience-là et de montrer que le public spécifique de la petite enfance était plutôt un public qui ouvrait des portes plutôt qu'il en fermait. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de très très important parce que c'est enfin, en tous les cas, c'est quelque chose qui m'a parlé en tant qu'artiste et qui, surtout, j'ai trouvé dans l'esthétique que je défendais en tant que compositeur contemporain, j'ai trouvé vraiment des vrais points communs, des vrais points de liaison entre mon travail de compositeur contemporain avec des formes sérieuses et tout ça et tout ça, et cet univers-là dans lequel finalement je suis rentré comme un poisson dans l'eau, on va dire. Voilà, c'est à peu près tout.
Par rapport à ton travail, toi, de créateur, de concepteur de projet, est-ce qu'on peut voir quelles questions ça vous a posé, qu'est-ce que justement ça vous a apporté, cette histoire d'échange dont vous parlez, est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus?
Oui, alors peut-être que on peut peut-être effectivement développer de manière un peu plus concrète en quoi ça vient, je dis ça vient questionner, mais où, comment, que quoi. J'ai parlé de l'écoute tout à l'heure. Il y a effectivement dans la relation aux enfants très petits, leur manière d'être dans l'écoute est complètement fascinante. Enfin, c'est-à-dire que l'enfant, vous le savez, quand on regarde un enfant de près, il écoute avec la peau, avec les cheveux, avec les orteils, enfin tout entièrement. L'enfant tout petit, quand il est happé par quelque chose, quand il est dans l'écoute, il est entièrement dans ce moment d'écoute, c'est-à-dire complètement concentré dans l'instant. C'est cette présence entière dans l'instant, qui est quelque chose qu'on a souvent du mal, en tant qu'adulte, à retrouver. Enfin, comment souvent on est un bout ici, l'autre bout là-bas, sur des préoccupations, il est entièrement là, complètement. Donc c'est effectivement cette relation à l'écoute est quelque chose de complètement fascinant, et cette relation à la présence aussi, pour l'artiste, est un enseignement tout à fait énorme, parce que c'est vraiment... et là, quand on est devant un public de très petits, on l'a tout de suite, la réponse. Enfin, quand on est là complètement centré et complètement là, on a la réponse. Si on s'en va un peu, ça s'en va. C'est absolument, il y a une espèce de relation comme ça que normalement on a dans tout, enfin, à chaque fois sur un plateau, etc. Sauf que bon, c'est souvent ce qu'on cherche. Mais c'est voilà. Et là, c'est direct, immédiat, tout de suite. Enfin, cette énorme chose de la relation à l'écoute et à la présence. Pour les musiciens aussi, enfin, l'enfant écoute et il est dans le son. C'est-à-dire que, on sait, un concert de musique contemporaine, on se dit, mais j'ai rien compris, enfin, les adultes, j'ai rien compris, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Bon. L'enfant ne se pose évidemment jamais cette question-là. Il est simplement là et il est dans l'écoute. Et dans la matérialité du son, dans la matière du son, dans le son, quoi, à l'intérieur, j'ai envie de dire. Sans se poser de questions, ce qui veut dire qu'on peut aller très très loin. Voilà, et très très loin dans la relation musicale. Enfin, voilà, simplement, on cause. Enfin, voilà, on est vraiment à l'intérieur du son. Et bon, on a des expériences comme ça où on peut les mettre aussi en phase de concerts. Bon, je me souviens. Les exemples, on en a plein. Enfin, je disais tout à l'heure, je me souviens de Hélène Bréchamp et des mouflets tout petits, hein. Un quart d'heure, ils n'ont pas moufté, quoi. Enfin, c'était pas un truc, on se mettait pas les pieds au mur pour faire zigouigoui et tout, plein de trucs. C'était juste la musique, enfin, et bon, là. Dans une proximité, enfin tous, on pourra en reparler tout à l'heure, mais bon voilà. Les éclats de rire aussi sur des moments, enfin de ce rapport au jeu, au plaisir, des éclats de rire simplement dans la relation au sonore, parce qu'un son il peut être drôle, il chatouille, il passe partout, voilà, mais enfin. Cette sensation du son, c'est comme ça que tu dis non dans ton truc.
Ben ouais.
C'est exactement ça. En fait, voilà, bon, en fait, c'est tout à fait ça. Et donc, par le fait même, évidemment, vous imaginez bien que pour un compositeur d'aujourd'hui, même d'avant-hier et peut-être de demain, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir affaire à un public qui, justement, a une appréhension, je dirais, quasiment morphologique du son, on peut dire, hein, et qui, comment dirais-je, va autant ressentir la matière du son, son côté totalement abstrait. Alors ça, c'est un truc qui, moi, m'a vraiment fasciné. C'est-à-dire qu'on peut aller dans l'abstraction la plus totale. Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est aussi une capacité à suivre... à suivre un discours de manière quasiment inconsciente, c'est-à-dire que c'est vrai que le mode de concentration, en fait, c'est ce que j'ai découvert, mais peut-être que je me trompe, c'est mon expérience, le mode de concentration, le mode d'écoute, en fait, et il y a une sorte de pointillé qui se fait un petit peu tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où on sent le public un peu flottant, il y a des moments où il y a une certaine absence, etc. Et il y a des moments conscients d'écoute, en fait, on n'a pas tant que ça. Il y en a quand même, mais il y a quelque chose qui va être tout de suite de l'ordre de la réaction. C'est-à-dire que très souvent, je ne suis pas tout à fait sûr que, par exemple, ce soit un public qui comprenne bien qu'il y a un plateau, il y a une salle, il y a des gens qui jouent. Voilà, tout ça, ça se met en place, hein, très souvent. Et justement, c'est très intéressant, justement, en tant qu'artiste, de se poser la question, de se dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer et qu'est-ce qu'il y a dedans, vers quoi je vais pouvoir, vers quoi on va pouvoir les emmener. Et ça, je pense que c'est tout ce que vient de dire Brigitte, c'est très intéressant pour pouvoir justement s'imaginer des choses, non pas en moins, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai découvert, je me suis dit, bon, voilà, ça, on va pas pouvoir faire ci, on va pas pouvoir faire ça, on va pas pouvoir faire un concert de 3 heures, de toute façon, les concerts de 3 heures, ça n'intéresse plus personne, etc., etc. Donc, on va plutôt se dire, on va faire des expériences, on va expérimenter, on va changer des choses, on va jouer justement un peu avec les codes de la représentation, ça, c'est aussi un point que je pense être aussi intéressant. Et ensuite, comment on va amener ce public d'un point en autre, et puis, j'allais dire du point A au point B, mais on n'est pas toujours tout à fait sûr de prendre le même chemin. Enfin, c'est l'expérience que j'en ai eue en tous les cas. Et en tous les cas, moi, je sais que c'est ce qui m'a vraiment marqué. Et c'est là où j'ai trouvé, justement, des points communs avec le type de travail que je propose. Voilà.
Par rapport à cette concentration, on a vu souvent, c'est assez étonnant de voir un enfant, en particulier dans des expériences en crèche, l'enfant est dans une action où il pleure, où il fait un truc, et il s'arrête au moment où il entend la chose, et sur le temps, il est là en arrêt. Et il reprend exactement à l'endroit où il était quand ça s'arrête, quoi. Mais y compris s'il était en train de pleurer, il reprend à pleurer, quoi. Enfin, bon, il y a comme un temps comme ça. Et ça, c'est très fascinant, cette affaire-là.
Oui, complètement. Et aussi, il y a... ce que j'ai remarqué aussi, c'est l'espèce de d'espèce d'absence bienveillante. C'est-à-dire qu'en fait, on a aussi des publics qui ont l'air tout à fait absents, puis une espèce d'absence bienveillante. Ils sont dans une action, comme tu dis, qu'on croit être complètement ailleurs. Donc, et en fait, ils sont quelque part avec nous. Et ça, en fait, ça demande pour nous, je dirais, une écoute. On parlait d'écoute tout à l'heure, mais il y a différents types d'écoute, évidemment. Et ça demande aussi une écoute de ce public-là qui est très particulière, qui est proche de, de l'autonomie, de toutes ces choses-là, où on va aller chercher une sorte d'espace commun sur lequel on peut évoluer. Alors évidemment, en tant qu'interprète, c'est très particulier, c'est très troublant. Et c'est vrai que il peut y avoir un petit côté très déstabilisant.
Oui, parce qu'ils peuvent aussi écouter le dos tourné.
Voilà, le dos tourné, par exemple, c'est pas mal. Mais au moins, on sait quand on n'écoute plus. Donc voilà. Alors, je sais pas si on passe au.
Oui, alors juste avant de effectivement vous expliquer du coup quel type de projet par rapport à votre travail ça a pu générer. Quand on s'était rencontrés, tu m'avais parlé très vite de la transmission. Tu m'avais dit mais ça pose très vite la question de la transmission. Est-ce que tu pourrais juste nous en dire un petit mot?
Oui, complètement. Alors en fait, c'est vrai que justement ce fait d'avoir, je dirais, une façon d'écouter qui est complètement corporelle et morphologique. En fait, ça pose la question de la, enfin, pour moi en tous les cas, hein, c'est comme ça que je me suis positionné, ça pose la question de la transmission, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on transmet et comment on le transmet. Et en fait, c'est vrai que moi j'étais enseignant dans les conservatoires pendant quelques temps, j'ai rencontré les personnes qui s'occupent de l'élevage musical, etc. Et aussi j'ai fait pas mal de micro-résidences dans des crèches, et je me suis aperçu qu'en fait on liait absolument tout, c'est-à-dire la parole au geste, à la musique, au son, etc. Et que l'appréhension de la musique se faisait aussi complètement corporellement. Il n'y a rien qui ne se fait autrement que corporellement, qu'avec le toucher, etc. Donc évidemment, se posait la question de la transmission. C'est-à-dire que je me dis, qu'est-ce qu'on transmet et comment on va le transmettre? C'est-à-dire quel objet artistique on va pouvoir mettre à disposition pour que ce public-là puisse nous suivre dans nos idées, dans ce qu'on a envie de leur raconter. Et évidemment, on peut. Je me suis aussi aperçu que j'avais toute une palette possible. Bon, évidemment, il y a la représentation, le jeu instrumental en direct, en proximité, c'est vachement mieux. Il y a aussi le fait de pouvoir entendre des choses qu'on ne voit pas. Pour moi, c'est très intéressant puisque je fais pour tous les musiciens qui font de l'acousmatique. C'est une situation que l'on retrouve et qui est vraiment très intéressante, c'est de voir, d'entendre un son qu'on ne voit pas, dont on ne voit pas l'émission. Donc ça, c'était quelque chose qui était très 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 intéressant. Et évidemment, d'avoir le rapport au toucher et le rapport à la sensation. Et c'est-à-dire là, qu'est-ce que on peut transmettre de l'ordre, quelque chose de l'ordre de la forme musicale par le toucher. Et justement. Là, c'est pour ça que j'en suis venu à imaginer des dispositifs immersifs où l'expérience musicale, puisque c'est une expérience musicale, peut se faire aussi par le biais des sensations et par le biais du toucher. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là, j'étais en plein dans un projet qui s'appelle Jardin de Sensations, qui était vraiment complètement dans ces mêmes questionnements. Donc, ça a été pour moi je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Est-ce que je ne sais pas si tu as là-dessus d'autres choses à dire sur la transmission, comment on le transmet, quels outils, tout ça? Non.
Ouais, d'accord, c'est cool. Non. Je pense qu'il y a aussi les histoires. Effectivement, c'est pas le même mode de relation avec un enfant de 6 mois ou les plus grands.
Ah oui, bien sûr.
Et cette histoire de relation à comment on transmet, comment on fait écouter, comment elle se pose avec les plus grands. Je dirais qu'avec les
Les plus grands, c'est-à-dire, parce que
les vieux, c'est ça. Ben les plus grands entre les 18 mois et 6 ans, c'est ça que tu as dit tout à l'heure.
Ça, c'est les termes officiels.
Les 4, 3, 6 ans. Je pense que dans vraiment dans la relation à la très petite enfance, on est à un autre endroit. Ce qui est intéressant quand même, c'est que cet autre endroit nous renvoie ailleurs. C'est-à-dire que cet autre endroit est très très petit, parce que je pense que c'est aussi intéressant d'en parler, parce que ça renvoie bien sûr au tout début, ça renvoie aux origines, au commencement de... Et cet endroit du tout début, du commencement, qui est le... Et je crois que dans la recherche artistique, c'est vraiment intéressant cet endroit-là qui est c'est quoi l'essentiel des choses, le noyau une fois qu'on a enlevé tout le reste. Qu'est-ce qui est irréductible? C'est quoi ce tout début, le tout début qui est cet endroit du début de la fin? C'est le même, ce tout premier là. Et la très petite enfance renvoie au tout premier, au tout premier, à l'origine. Et donc, et si on a envie, parce que c'est pas non plus, c'est obligatoire pour personne, si on a envie d'aller chercher à cet endroit-là, effectivement, ça amène vers dépoussiérer les choses, aller à ce qui... on n'est pas... ne plus faire, mais simplement cet endroit d'être là, quoi, vers le rien. C'est vraiment cet endroit-là qu'amène la très petite enfance, je crois. Et là, effectivement, c'est plus vraiment des histoires de transmission. C'est-à-dire que, en fait, je crois que c'est la chose, elle est renversée, en fait. Dans la relation avec la toute petite enfance, c'est-à-dire on n'est pas dans le comment on s'adresse à, mais plutôt qu'est-ce que ça nous renvoie, et à quel endroit ça amène l'artiste à s'interroger et à travailler. C'est ça qui est intéressant en fait, et on le voit bien, comment un travail à cet endroit-là vient nourrir tout le reste, bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas on fait un bazar pour la petite enfance et puis je vais faire des trucs sérieux à côté. C'est comment cet endroit-là est vraiment un endroit de laboratoire qui vient irriguer aussi et re-questionner l'ensemble du travail. Et c'est vrai, je crois, si on y est vraiment, c'est...
En tout cas, je crois que c'est à souhaiter que ça se passe comme ça. Justement, quand tu parlais du rien et d'irrigation, choses comme ça, est-ce que tu pourrais justement nous parler un petit peu de conception du rien, quand même, quand ça renvoie quelque chose, justement, qu'est-ce qu'on peut concevoir comme objet, qu'est-ce qu'on est obligé justement de prendre en compte, de ne pas prendre en compte, quel type d'objet culturel, artistique, musical on peut imaginer en tant que créateur pour ce type de public.
A priori, on n'en sait rien. Ce serait contradictoire avec ce que je viens de dire avant. Cette invitation à aller vraiment à l'endroit de la recherche et de comprendre ce qu'on a à faire là, c'est chacun, comment chacun suit son chemin là-dedans et invente et se donne justement la liberté d'inventer des choses, des formes, etc. Bon, après, une fois qu'on a dit ça, et effectivement, il y a un peu des choses, des choses de bon sens, mais je crois, alors, on peut être, c'est-à-dire, il y a peut-être l'endroit, le lieu où ça se passe. Il y a effectivement, on peut être aller à la rencontre dans des lieux de vie de la petite enfance, par exemple. Ce qu'on n'a pas évoqué, je crois, c'est que dans ces lieux de vie, il y a des enfants et des adultes. Dans des lieux de spectacle aussi, c'est-à-dire que on s'adresse, on est ensemble dans un geste artistique avec des enfants et des adultes. c'est aussi ce, peut-être l'endroit du langage commun possible, j'ai envie de dire, entre l'enfant très petit et l'adulte. Il y a un l'endroit où on peut se parler, on parle la même langue. Enfin, voilà, on est au même endroit de voilà, des sensations, des émotions, de, voilà, cet endroit de langage commun. Voilà, donc on peut et quand on est dans ces endroits-là, on vient pas faire. Enfin, d'abord on va chez quelque part, chez des gens qui sont voilà, qui ont toute une organisation dans la du quotidien. On vient pas faire des trucs. On s'invite ou on est invité et comment on est à l'écoute. Enfin, et ce qu'on pose là, c'est voilà, et ça se construit petit à petit. Enfin, hein, je pense que bon voilà. Après, ça peut aller loin. Hein, on peut voilà, on peut ça peut se développer, mais on prend le temps. Alors c'est aussi un truc ça. Effectivement, cette invitation à prendre le temps dans ces endroits-là, c'est important parce que c'est un peu un luxe. Et donc comment on se donne ce luxe-là de prendre le temps. Après, je crois que ta question, elle était aussi liée enfin, sur voilà, les formats. C'est vrai, quand on est sur quand on construit un objet qu'on va proposer sur un plateau, il y a du temps. Enfin, comme tu le disais, c'est vrai que bon, voilà, on sait bien que le temps moyen d'attention d'un groupe d'enfants, et ça va très bien aux adultes aussi d'ailleurs, c'est une trentaine de minutes. Enfin, voilà, ils sont là, et du coup, on peut se permettre d'être complètement dans l'écoute pendant ce temps-là. Ce qui veut dire que aussi, enfin, artistiquement, on a, enfin, quand on est là sur un format de 20-30 minutes, on est dedans tout de suite, quoi. Parce que si on se rate au début, on se rattrape plus, quoi. Parce que effectivement, on a 20 minutes, quoi. Donc c'est un truc serré, quoi. Enfin, bon, c'est, on est dans une proximité, mais c'est aussi un peu du bon sens, parce que un mouflet, on va pas le mettre à 20 mètres pour écouter un truc, hein. Donc de toute façon, bon voilà. C'est aussi une relation, enfin, c'est du bon sens. Et souvent, c'est comment on pense en même temps, enfin, l'endroit du jeu et l'endroit de l'écoute. Enfin, c'est dans quel, et ça aussi, c'est intéressant. Dans quelle posture on écoute, où est-ce qu'on se met, où est-ce qu'on est assis. C'est ton histoire de toucher aussi. Tiens, est-ce que c'est un bon, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est mou, est-ce que c'est, enfin, dans quelle position on est, voilà. Si on met plein de coussins, puis qu'ils sont pas tous occupés, bah, c'est une invitation pour que les mômes jouent avec les coussins. Enfin, il y a plein de trucs comme ça après. Donc c'est pas très recommandé. Bon, enfin bon, voilà. Il y a, bon, je sais pas, tu veux plus de choses que ça, hein.
Je vais.
Je vais rebondir un peu là-dessus conception. Parce que sur la conception, je trouvais, j'ai fait une expérience d'une résidence dans une crèche départementale en Seine-Saint-Denis, donc qui nous a proposé de réaliser une résidence d'essai pendant une année dans une crèche de l'île Saint-Denis, et pour qui était en fait une année de préparation pour un nouveau spectacle, et ce spectacle avait comme thématique particulière le paradis et comment en fait finalement le paradis pouvait être simplement non pas un lieu mais un regard sur les choses. Et comment le paradis pouvait être aussi une façon d'appréhender l'autre, d'appréhender l'espace qui nous entoure, et que comment ce regard, comment cette écoute pouvait complètement changer notre rapport au monde. Donc ça, c'était la thématique donc de notre de la résidence de préparation et de la résidence de création. Et donc, inutile de vous dire que moi, je n'ai jamais été dans une crèche avant. Mes enfants n'ont pas été dans une crèche. Moi, je ne m'en souviens pas. Voilà. Et c'est un monde que je ne connaissais absolument pas. Donc, ça a été vraiment un moment complètement de rencontre où on a travaillé sur des... on a plutôt proposé. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me suis dit, bon, on va faire ci, on va faire ça, ça va être super, on va faire une performance là, etc. On s'est dit, tout le monde nous a dit... Écoutez, on va plutôt, venez plutôt, voyez comment ça se passe et on va proposer des choses. Et en fait, au fur et à mesure de nos propositions, on est allé vers des choses de plus en plus abstraites. C'est-à-dire qu'on a d'abord travaillé sur des plans. Qu'est-ce que c'est qu'un plan ? C'est-à-dire, évidemment, le sol, c'est un plan. Évidemment, le sol pour eux, c'est très important parce que c'est quand même. Voilà. Les murs sont un plan. Ensuite, on a commencé à changer les choses, on a commencé à tirer des grandes feuilles dans l'espace, à complètement changer l'espace dans lequel on était uniquement avec des plans. Ensuite, on a travaillé sur l'idée de la ligne. Donc, on a investi complètement l'espace dans lequel on était uniquement sur l'idée sur l'idée de la ligne. Donc, comment, qu'est-ce que c'est qu'une ligne, qu'est-ce que ça raconte pour nous d'un point de vue corporel, suivre une ligne, la suivre du regard, la suivre avec la démarche, etc. Donc, on est en fait petit à petit allé vers des choses totalement abstraite, et où en fait ces objets, qui étaient des objets souvent très très simples, avaient une qualité, je dirais, artistique, sonore, vraiment ultra basique, mais en fait le fait de simplement de proposer ça, qui est dans un lieu de vie qui est totalement adapté, ça c'est vraiment génial, moi je sais que j'ai trouvé ça vraiment incroyable, ce lieu de vie est totalement adapté aux adultes et aux enfants, et en fait on a en définitive proposé ces objets. Et on est parti avec eux. Et ce travail-là a ensuite nous a complètement irrigué et nourri cette proposition artistique. Alors, évidemment, vous me direz, mais d'un point de vue sonore, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est quoi ? Les lignes, les plans, les espaces que l'on change, les matières que l'on touche. Il y avait un moment où on a investi toute une pièce uniquement qu'avec des matériaux très mous à toucher, par exemple. Mais justement, c'est pour un musicien, c'est juste fantastique. L'idée de la ligne, l'idée du contrepoint, c'est vraiment, vraiment hyper intéressant. L'idée du plan, des plans sonores, des plans de matière, des matières que l'on touche, etc. Donc, je veux dire, moi, travailler sur des choses totalement abstraites comme ça, c'était un pur bonheur. Plutôt que de se dire, bon, on va faire introduction 1, introduction 2, forme, voilà, exposition. Je veux dire, non, on n'est pas du tout donc, ça a vraiment permis d'aller vraiment, je dirais, au cœur de la proposition de manière tout à fait abstraite. Et simplement, comme tu disais, d'être là, tout simplement, de proposer, tiens, je t'ai passionné, d'être là et d'être... sur une mise en place d'un fond, je dirais, d'une proposition artistique. Voilà. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que j'ai... Par exemple, voilà, ça c'est une expérience.
Tu as un petit peu devancé le plan qu'on avait prévu. Ah ouais. Donc, par rapport, pour revenir un tout petit peu sur la conception, donc déjà, on a découvert moi quelque chose que je connaissais pas du tout, qui était effectivement d'aller dans les crèches. Brigitte parle des petites bulles justement, d'aller sur les lieux de vie, des choses comme ça. Ça, je crois que c'est quelque chose qui quand même est très spécifique. J'en sais rien, mais en tout cas très développé sur ce genre de public, puisque pour tout ce qu'on vient de dire avant. Quand on parle de genre de public, je voudrais qu'on revienne juste un petit point avant que vous nous expliquiez effectivement des réalisations peut-être plus concrètes, puisqu'on est resté là jusqu'à maintenant, on n'en a pas encore beaucoup parlé. On a parlé des publics accompagnants, et je pense que c'est quand même aussi une spécificité de ce genre de projet. C'est des publics souvent non formés, des publics, voilà, les parents, les accompagnateurs quand on est dans des lieux de vie. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, puisqu'on en avait parlé, c'est quelque chose qui vous avait apparemment aussi interpellé.
Je sais pas, tu veux causer mon poste ? Vas-y.
C'est effectivement, ils sont pas justement sans doute pas que accompagnants. Mais ils sont aussi, enfin ils sont là. Et c'est quand même trop bien, pour une fois, d'avoir des publics. Alors qu'on se dit effectivement, enfin, comment renouveler les publics, comment toucher tati tata, d'autres gens, élargir, enfin tout ça, tout ce que vous savez autant que moi. Pour une fois, on a effectivement des publics qui sont pas habitués à venir au concert ou à venir au spectacle. C'est quand même trop bien, quoi. Et c'est vrai que souvent les adultes nous disent ah bon mais ah oui c'est ça, ou alors des choses un peu plus rigolotes du genre mais moi ça m'a touché, donc c'est sûrement pas pour les enfants votre truc. Puisque moi, en tant qu'adulte, j'ai pris du plaisir, comme exagéré, quoi. C'est ça. Bon, et donc, bon, voilà, enfin, effectivement, comment aussi l'adulte est, est là aussi, et qu'il écoute des choses qu'évidemment il n'aurait jamais l'habitude d'entendre. Alors, c'est intéressant sur ce que tu évoquais, des choses un peu plus longues comme ça en crèche ou des moments de résidence où c'est vraiment important, en tout cas, oui, de se donner des moments d'échange. Avec les professionnels, enfin, de quoi on parle ensemble, comme on fait ce matin d'ailleurs, en fait, hein, mais d'échanger, ils vont peut-être parler aussi, non,
bientôt.
On a
le
droit à 5 minutes.
Non, vous avez droit de danser.
Non, vous avez droit de danser. Eux, ils ont droit à 5 minutes, après vous avez une demi-heure.
Parce que, histoire de pas de lever quelques malentendus possibles, donc de vraiment se donner le temps, ça peut être bien aussi avec des parents, mais ça c'est plutôt dans les structures où on peut faire effectivement ce travail-là quel moment on imagine, enfin comment on imagine des moments autrement, aussi avec les adultes sur cette relation, avec la toute petite enfance. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire venir au spectacle? Parce que aujourd'hui, enfin c'est vrai que la problématique, elle est, enfin on va consommer des trucs quand même. Comment est-ce qu'on on accompagne ces moments-là, de quoi on parle, comment est-ce qu'on imagine aussi des moments autrement, comment est-ce qu'on invite justement autour d'une proposition artistique, on invite à prendre le temps, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire vous êtes bien, on fait un petit goûter, on fait des trucs ensemble, on se parle, c'est peut-être cette chose. C'est-à-dire comment ces moments-là, ils sont, avec tout ce qu'on se disait avant, comment on emmène aussi le public et les adultes à cet endroit-là.
Est-ce qu'on peut pas même parler un petit peu de formation du public, en fait, et...
C'est peut-être un petit peu fort. Non, mais ce qui est clair, c'est que très souvent, c'est souvent les premiers spectacles pour les enfants, mais c'est naturel. Mais c'est quelquefois aussi les premiers spectacles pour les adultes. Et c'est pas ça qui en fait un mauvais public, d'ailleurs. Il y a aussi une énorme différence sur. J'étais vraiment très. J'étais très surpris de la multiplicité des publics, parce que en fait les personnes qui viennent, ce sont plutôt les familles en définitive. C'est-à-dire, c'est ça que je trouvais vraiment intéressant, c'est que bon, le public lambda, c'est les personnes qui sortent, etc. En général, on laisse les enfants à la maison, etc. Là, en fait, les familles viennent, donc elles viennent avec leurs histoires, c'est-à-dire leurs rapports. Ça c'est vraiment ça se sent très fort. Mais aussi les groupes, c'est-à-dire quand on a une crèche ou, une école maternelle qui viennent, etc., ils viennent avec aussi leurs histoires, avec leur rapport, etc., etc. Donc c'est un public qui est en fait mixte quelque part, où on a vraiment ces enfants, ces adultes, et qui apportent une énergie particulière à la salle. Alors ça, c'est une première chose. Après, par rapport à la formation du public, je vais pas parler de manière trop, trop générale, mais il y a vraiment une vraie recherche justement de formation de ces publics-là, et en tous les cas une demande, c'est-à-dire une demande de formation d'encadrants, de ces encadrants, je peux pas, voilà, et que j'étais vraiment très surpris de voir à quel point il y avait un vrai suivi, c'est-à-dire que les personnes très souvent dans les structures qui programment ce genre de travail sont aussi les personnes qui s'occupent de la relation publique, des relations publiques. C'est souvent les mêmes postes. Et donc, ça fait partie de leur mission, et aussi de leur mission de rayonnement territorial, non seulement de programmer, mais ensuite de former les encadrants, et de le former sur un territoire qui est connu. Donc, on est tout de suite en prise avec tout ce qu'il y a de plus concret. C'est-à-dire que c'est vraiment, on va jouer chez les gens et les personnes. Il y a souvent des formations après, des formations avant, etc., etc. Et souvent, tout ça, c'est pris dans une... Alors, c'est aussi une relation avec la politique de la ville. C'est ça qui est super intéressant. C'est que, quelque part, on se repositionne complètement différemment en tant qu'artiste. C'est-à-dire que l'objet artistique que l'on va proposer va rentrer dans un processus qui, en définitive, sort complètement de la structure artistique et qui va avoir des ramifications dans une ville, la cité, quelque part. Moi, je c'est quelque chose qui, moi, je trouve très nourrissant d'un point de vue de l'énergie. Alors après, formation des publics, voilà, je suis pas sûr qu'il y a une formation, mais il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. Enfin, voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus.
Oui, peut-être sur l'accueil des publics, on est sur plutôt que de la formation, c'est comment on induit l'endroit où on a envie de poser les choses, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair, mais par la manière dont on accueille, par la manière, c'est-à-dire que évidemment, si on fait entrer une horde de mouflets dans une salle
ça se passe mal.
Voilà, ça se passe pas forcément très bien. Ou ça peut ne pas se passer très bien. Mais en tout cas, voilà, c'est quoi entrer ? Et c'est intéressant parce que ça amène, et aussi les lieux, à se reposer d'autres questions. C'est quoi entrer dans une salle ? Si la proposition elle est dans une salle, c'est quoi entrer là ? Comment on entre ? C'est quoi s'asseoir ? C'est quoi la relation entre l'adulte et l'enfant ? Enfin, prendre. Ça re-questionne aussi ça. Comment on va s'asseoir ? Comment on va écouter ? Enfin, pourquoi on est là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, c'est vraiment accompagner ça. C'est plus des choses comme ça. Et c'est vrai que, enfin, on le sent quand ce travail-là, quand dans les lieux il y a une habitude de ce travail-là, on le sent tout de suite, quoi.
Oui. C'est aussi une façon de c'est aussi très intéressant dans des lieux de théâtre habitués à accueillir du public avec une salle, etc. C'est très intéressant de voir à quel point on est obligé de complètement revoir les dispositifs, de complètement se poser la question de l'accueil du public complètement différemment, où est-ce qu'on accueille, à quel endroit on se met, etc., etc. Donc on change vraiment beaucoup beaucoup d'habitudes, voilà, moi je en tous les cas, je trouve que ça pose encore une fois l'accueil du public, la formation du public, c'est complètement lié, je dirais, au lieu de vie. Et le théâtre, à ce moment-là, ou le lieu d'accueil artistique, devient tout d'un coup un lieu de vie. C'est-à-dire où est-ce que les gens se mettent, où est-ce qu'ils s'asseyent, etc. Qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, voilà. Et ce n'est pas simplement un lieu de représentation. lieu de vie, certes, mais pas au sens aussi large que ça.
C'est la représentation qui est questionnée, effectivement, et la question du sens, quoi.
Absolument.
Comme dernier point, on avait souhaité aborder un petit peu les matériaux, vous, en tant que créateur, chacun dans votre univers, justement, après tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de sur quel effectivement objet vous avez travaillé, voilà, quelques exemples de spectacles, choses comme ça, peut-être pour que ce soit un petit peu plus concret aussi, d'expériences peut-être réussies, d'expériences moins réussies, c'est pas toujours lié d'ailleurs à la conception du spectacle. Voilà, quelques exemples de travail précis, un petit peu chacun.
En tous les cas, moi je vais répondre. En fait, surtout par rapport à comment j'ai répondu en fait à une conception de spectacle destinée à la petite enfance et comment j'ai répondu d'un point de vue musical et d'un point de vue du dispositif. Je vais plus prendre ce voilà. Donc il y a quelques années, il y a 4-5 ans. On m'a sollicité pour travailler, enfin toujours avec la compagnie AMK, on m'a sollicité pour faire un travail sur la thématique de l'arbre famille et d'une évocation de qu'est-ce que c'est que le corps et comment imaginer la famille comme étant un grand corps dans lequel il y avait une partie de nos racines et une partie de nos de nos aïeux, de nos petits frères, de nos petites sœurs, etc. etc. Imaginez ça comme étant des corps qui sont complètement reliés les uns avec les autres. Et aussi, ça c'était la première thématique. Et l'autre thématique, c'était de travailler sur l'idée de la vie des perroquets. Ça peut paraître un peu bizarre. Qui certains perroquets, en fait, se regroupent en famille sur des branches d'arbres pour. Ils se regroupent pour. Pour manger ensemble, ils se regroupent pour mourir ensemble, ils se regroupent pour etc. Et chaque fois, à chaque endroit, sur chaque lieu de ces branches, il y a un lieu pour faire quelque chose. Voilà, je ne sais plus quelle race de perroquet. Peu importe. Donc en fait, il y avait quelque chose à la fois l'idée d'un dispositif et que dans ce dispositif était chaque partie de ce dispositif faisait partie du même corps et que ce corps il se passe des choses, cet arbre, sur chaque branche, il se passe des choses complètement différentes. Ce sont des lieux de vie complètement différents. Et donc, et comment toutes ces parties de cet arbre font partie de nous-mêmes, et comment ce sont des tranches de vie qui s'agglutinent et qui se cousent les unes avec les autres pour nous constituer en une seule entité. Donc ça, c'était, la thématique globale. Donc en fait, moi j'ai répondu de plusieurs manières. La première chose, c'est que évidemment j'ai pensé à l'idée donc de cette idée de patchwork que je trouvais vraiment très intéressant, de choses qui s'agglutinent, qui se cousent les unes avec les autres et qui forment un tout. Et donc je suis complètement parti sur évidemment en musique le patchwork, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est-à-dire, ce sont des citations. Soit je me suis cité moi-même, ou j'ai cité des enregistrements qui existaient déjà, et qui avaient au départ aucune relation les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre de manière complètement, je dirais, presque automatique. Et au fur et à mesure du spectacle, l'idée c'est de tisser des liens. Et en fait, l'idée c'est que dans cette musique-là, petit à petit, ces patchwork musicaux, petit à petit, ont commencé à se tisser et à se conjuguer eux-mêmes d'un point de vue musical, et finalement à donner, je dirais, à la fin du spectacle, quelque chose de tout à fait mélangé, et où chaque point qui était complètement en différence devenait quelque chose avait tout d'un coup une certaine cohérence les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'était l'idée du patchwork. L'autre idée, c'était aussi de travailler, je vais faire vite, de travailler sur la spatialisation. Donc évidemment, ça m'intéressait beaucoup, d'imaginer un arbre horizontal et que chacune de ces branches d'arbres était un point de diffusion, parce que je travaille en musique acousmatique. Et l'idée aussi, c'était de mener l'attention du public. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'une dizaine de haut-parleurs qui entourent le public. Et les points importants, en fait, étaient dans la spatialisation pour amener le public à écouter à tel endroit ou à regarder à tel endroit, puisque c'était un dispositif immersif. Donc ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et puis une troisième chose, c'est que comme cet arbre était au sol et qu'il fallait bien marcher dessus, etc., en fait, cet arbre nous parlait. Et à l'intérieur de tout cela, En fait, tous ces objets avaient des objets étaient complètement. Je dis que c'était intéressant qu'ils soient complètement interactifs. Et au fur et à mesure que le public est dedans, que le spectacle se déroulait, l'interaction avec le public évoluait aussi, puisqu'il y avait encore une fois cette idée de patchwork, de choses qui se tissent, etc. Donc voilà comment j'ai, en tant que musicien, répondu. Et c'est quelque chose qui. Est partie d'idées complètement abstraites. Voilà, je vais voir un exemple. Je ne sais pas si tu as un autre exemple. C'était ça l'idée que tu voulais.
C'était plus poser la question des matériaux que vous avez utilisés.
Ah, matériaux. Voilà. Je vais me parler des matériaux.
Pour d'autres modes, en fait, parce que c'est un peu ça, c'est un peu.
Voilà. Plus de la balayer. Réalisation du travail qui est fait à la ténor en lien avec le public en question.
Les formes sont, enfin, il n'y a pas une chose. Enfin, il y a plein de possibles. Enfin, après, c'est comment elles sont justes. Ou... Alors, je peux redonner quelques exemples si tu veux, mais on a travaillé plus à partir de l'improvisation dans le travail sur Kernel avec Philippe Fauche, percussion, donc on est vraiment sur une relation au son premier, on part du son, et petit à petit, comment on va du son jusqu'à un son qui se démultiplie, et on va jusqu'au langage. Pour dire vite, hein, mais bon, bref. En tout cas, on est sur. On part vraiment de l'improvisation avec la matière, donc avec des matériaux, des différentes percussions, et de là, on construit un parcours libre, enfin quelque chose qui est construit, mais en laissant une liberté à l'intérieur pour arriver à la fin à comment il renvoie le son au public, et du coup l'improvisation elle se fait avec les sons qui sont là. Pas clair hein, ce que je raconte. Hein. Les sons du public, c'est-à-dire comment lui avec son son et petit à petit, comment on arrive à la fin à être complètement dans une ouverture de l'écoute. Voilà, d'ici et maintenant, et comment il est avec ça, c'est-à-dire que la proposition, elle est renvoyée. Enfin, elle est envoyée au public sur les coups. Donc, on est vraiment sur une chose comme ça, très. Hein. On peut être aussi sur des propositions. Et à un moment, on a eu envie d'être sur de la musique écrite aussi. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire aussi une pièce écrite dédiée à la toute petite enfance. Donc à partir d'un matériau poétique et sur une écriture, donc il y a eu plusieurs choses. Il y a eu une commande à un moment à Jean-Christophe Landler qui a créé une jolie pièce pour percussion et voix, qui est une petite, comme une miniature un peu, enfin, dans l'esprit, on est vraiment là. Et après l'attention, elle est vraiment sur chaque moment, chaque mot, chaque geste, enfin comment toutes des choses comme ça très très fines sur chaque moment. Il y a eu aussi autour de l'écriture plusieurs des commandes de toutes petites pièces pour des petits concerts pour une journée à la crèche. Donc où c'était vraiment la relation de la voix au quotidien. Comment la voix vient tisser un fil avec le quotidien. Donc juste des petites, là aussi des micro-miniatures, je dirais. C'est 4 minutes là, et puis juste une présence sans rien dire, mais comment un moment musical vient se poser comme ça, comme une goutte d'eau sur les les feuilles, je dis n'importe quoi. mais comment ça vient juste se poser là, quoi. Voilà. Et ça tisse un fil le long de la journée. Bon, voilà. Des choses aussi dans la nature, on est dans un parc comme ça, sur des moments comme on est aussi à l'écoute des sons et comment on vient être en relation, comment voilà, le musicien ou la danseuse, puisque là il y avait aussi une danseuse, est en relation avec aussi l'environnement et les gens qui circulent, les parents et les enfants, tout. Enfin bon, je ne sais pas si ça. Ça répond. Ah, je sais
pas. Si, je crois qu'effectivement, du coup, on a effectivement présenté vraiment ce que tu disais avec un rapport très fort sur l'écoute. Bon, ben, au revoir, Serge. C'est peut-être un petit peu ça, je veux dire, la spécificité de ce public, c'est pas gentil pour les autres publics, mais peut-être que c'est une notion qui est encore plus forte parce qu'elle est effectivement très première, je crois qu'on l'a bien compris, dans ce public. Donc, nous, d'autre côté, musiciens, artistes, je pense qu'il faut qu'on ait vraiment ça à l'esprit quand on conçoit des objets justement et qu'on va aller s'adresser à ce type de public. Donc moi je pense que vous avez tout à fait rempli votre part de contrat, présenté, je ne sais pas ce que tu en penses Alexandre, c'était ta proposition, et il nous reste 5-6 minutes avant d'aller courir à la maison du parc pour effectivement échanger avec le public. Alors est-ce que vous avez des questions, des réflexions? Apparemment David, je vais te passer le micro par contre, je vais faire le...
Oui, hélas, le temps est un peu court, mais voilà, là, je trouve très passionnant votre restitution, et on a bien compris que vous savez faire, vous savez écouter, vous savez entendre. Brigitte a beaucoup parlé de parler la même langue. Mon interrogation essentielle, elle est la suivante. Aujourd'hui, on vit des mutations radicales. Et ce que je voulais savoir, c'est au fil de votre expérience, est-ce que cet établissement de cette même langue a changé à cause d'une variation dans les seuils d'acceptabilité, une familiarité différente par rapport au langage, une durée d'attention radicalement changée à cause de la médiation d'aujourd'hui, le rapport aux images et la conscience nouvelle du sonore. Alors, évidemment, on ne va pas répondre en 5 minutes là-dessus, mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un peu votre point de vue sur, au-delà des spécialistes très attentifs à une question qu'ils connaissent parfaitement, est-ce que quelque chose de notre monde n'est pas en train de perturber violemment cette mise en relation et ce langage commun? Oui, pardon, je m'appelle David Gis.
Oui, oui, la question est juste, évidemment. Après, alors... Là aussi, ça dépend de, enfin, de où on parle, à quel endroit, à quel moment, avec quel âge.
Cette question, évidemment, est plus adaptée aux plus âgés.
C'est
mais,
ça, parce
mais
que
il n'empêche qu'elle est valable.
Oui,
aussi.
Oui, mais c'est évidemment moins vrai avec les très petits. Parce que bon voilà, mais l'âge, enfin mais ça descend de plus en plus, et l'histoire du temps d'attention, alors ça dépend aussi où on est, quoi. Et ça c'est quand même de plus en plus énorme. Enfin les différences de possibilités d'écoute suivant les endroits où on se trouve. C'est vrai qu'au fin fond de la Creuse, c'est plus facile. On est plus dans l'écoute. C'est une banalité, mais c'est quand même vrai, quoi. Que dans beaucoup de coins plus agités, on va dire. Mais je dirais que l'urgence, elle est... Elle est encore peut-être plus forte, hein, d'être à cet endroit-là et de poser ces moments qui sont... Alors après, il y a aussi dans l'expérience hein, que j'en ai, des relations à des cultures aussi. Et il y a aussi des cultures qui ont des traditions d'écoute, de relation à la voix, de relation au chant, les modes de relation entre les parents et les enfants. Enfin, il y a des choses très comme ça qui sont oui, différentes d'une culture à l'autre. Et vraiment, j'ai des tout d'un coup en parlant, enfin des images très fortes de beaucoup d'expériences qu'on a fait à Stein, hein, dans ce coin-là. Et là, on apprend. Enfin, c'est ce qu'on reçoit à cet endroit-là, c'est magnifique, quoi. Enfin, et de choses vraiment très très fortes, justement de ce mode de relation entre les et d'écoute possible à un endroit loin comme ça de la mémoire quoi. Bon, comme tu dis là enfin je raconte des banalités sur une question qui serait effectivement enfin qui demande qui demanderait de plus oui plus de temps.
Il y avait une question là-bas.
Oui, bonjour. Je vous remercie pour cette proposition qui, je veux dire, un nourrisson qui écoute de la musique concrète ou de la musique sérielle. C'est intellectuellement assez stimulant. Je vous remercie de cette proposition. C'est très pertinent. Ma question, en fait, elle se situe par rapport à une pratique d'atelier d'une catégorie d'âge supérieur, capable de s'approprier un objet et d'essayer d'en faire quelque chose. Mais on n'est pas du tout dans ce truc-là. Mais la question que je voulais vous poser, c'est par rapport à est-ce que un nourrisson est en mesure de produire du son, c'est-à-dire ce que vous nous avez décrit, c'est on est dans l'écoute et ce que cette écoute est en mesure de pouvoir provoquer comme cheminement ensuite dans la construction d'un dispositif. Ma question, c'est de savoir si l'objet humain est capable de produire une source sonore. Oui, j'ai envie de dire, on met un coup de pied dedans et puis ça produit du son. Les oiseaux de Messiaen et de Cage, en termes de son, voilà, est-ce que à travers le corps d'un nourrisson, il y a aussi la possibilité de développer un espace sonore produit par l'objet lui-même ?
L'objet nourrisson.
Alors je ne sais pas ce que. Merci pour cette question. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par nourrisson. C'est comme tranche d'âge, ça serait quoi? Ça serait des tout petits jusqu'à.
Les petits machins qui marchent pas.
Les petits bidules, les petits trucs tout mous.
Les petits machins qui marchent pas.
Et les petits trucs qui marchent pas jusqu'à 10 mois, un an, quoi. On va dire. Bah écoutez, moi j'ai ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'écoute, etc. Bon, c'est une thématique qu'on a beaucoup développée, mais je pense qu'il n'y a pas tellement de différence en tous les cas, enfin il me semble, pour ces enfants de cet âge-là, de différence entre le fait d'écouter et de produire. C'est-à-dire qu'en fait, plus on écoute, plus en fait le fait de plus on propose une écoute, je dirais sensible ou fine, enfin on peut la qualifier de tout ce qu'on veut, plus en fait l'enfant lui-même produit de manière justement fine, nuancée, etc. Et en fait que l'ensemble, en fait que tout ça c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'en fait et justement, je peux parler de juste ce que j'ai remarqué, c'est que en fait l'écoute est fine, plus le geste pour produire le son devient fin lui-même. C'est-à-dire c'est comme si l'écoute se situait aussi au niveau du toucher. C'est-à-dire, bon, ça, voilà, j'écoute, et bien après, je peux aller un petit peu plus loin, je peux aller un peu plus finement, et je me mets à toucher de manière de plus en plus sensible. Donc, je pense que, oui, effectivement, pour moi, quand on parlait d'écoute, on peut parler aussi de travail participatif, etc. Pour moi, je ne fais pas de différence entre le fait d'avoir des enfants qui écoutent de manière passive, pour moi, ils écoutent de manière de façon active ou de cette façon, sinon ils n'écoutent pas. Mmh. Enfin, je sais pas si tu as autre chose à dire.
Juste peut-être comme ça une chose, ça me fait penser à par rapport à la voix, souvent, enfin les réponses. Oui. Des enfants.
Les cris des enfants.
Une réponse musicalement pertinente, enfin juste.
Je crois que c'est un des spectacles d'Athénor où j'ai.
Anne Torrent des Jeunesses Musicales de France, et c'était juste pour rebondir comme dans une conversation, mais je comprends qu'il faut le micro pour l'enregistrement. C'était à une représentation d'une des créations d'Athénor que j'avais découvert que des enfants, ils devaient avoir à peu près un an, reproduisaient de manière juste les sons. C'était fascinant.
Oui, c'est fascinant. Merci. Oui. Bon, voilà, c'est tout.
C'est ça, c'est les cris des enfants. Ça résume la question que je voulais poser.
C'est vrai, il y aurait une autre question.
Qu'ils écoutent en vrai, quoi.
Alors très vite, très rapidement, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, je pense. Il nous reste plus beaucoup de temps.
Il est 58.
Bon, alors très rapidement, est-ce qu'on peut... Deux questions, très simples. Est-ce qu'on peut réellement parler de spectacle pour la toute petite enfance? C'est-à-dire, y a-t-il pas autant de différence entre un public de 18 mois et un public de 6 ans qu'un public de 6 ans et un public adulte? Et la deuxième question, c'est plus lié à la perception que j'ai pu avoir dans les spectacles jeunes publics que j'ai pu accueillir, où le spectacle était autant du côté du public que du côté de ce qui passait sur le plateau, et surtout dans l'interaction entre les deux. Et est-ce que je pense notamment à Kernel là, de Philippe Fauche, où les tout petits étaient eux-mêmes complètement acteurs de ce qui est en train de se passer dans le spectacle. Donc, est-ce que un spectacle jeune, très jeune public, on va dire, ne doit pas prendre en compte cette dimension de ce côté imprévisible? Est-ce que c'est pas une donnée constitutive d'un spectacle ou d'une action musicale jeune public? Et est-ce que c'est pas cette dimension d'imprévisibilité qui laisse la possibilité au bébé ou au jeune public de s'exprimer, qui va également permettre de construire et d'adapter, d'aménager une sorte... Est-ce que finalement, ce n'est pas une sorte de work in progress en permanence, un spectacle pour les tout-petits?
De toute façon, ça rejoint ce qu'on disait au début sur la présence, l'écoute, la disponibilité, et l'ouverture à ce qui advient. Enfin, bon, voilà, il y a une espèce de posture comme ça. Enfin, ce qui ne permet pas de dire que c'est obligatoirement une chose qu'on appellerait interactive ou c'est autre chose. Enfin, voilà, j'ai un peu envie de le dire. C'est-à-dire qu'on est dans Kernel, c'est effectivement ce que j'essayais de décrire tant bien que mal tout à l'heure, la disponibilité au son autour. Enfin, mais on est là, enfin oui, sur la possibilité, l'ouverture à l'imprévu, à la surprise, à l'étonnement, à ce qui à être là, et donc effectivement il peut se produire plein de choses, et la porosité effectivement beaucoup plus grande. Puisque la proximité, etc., qu'un spectacle, le plateau avec le quatrième mur et tout ça. C'est comment on peut être. Faire avec ce qui peut advenir, quoi. Mais je ne dirais pas que le spectacle jeune public doit obligatoirement intégrer la réaction des enfants, par exemple. Enfin, c'est pas... Puis tu avais posé une autre question au début, mais je l'ai oublié, en fait.
Est-ce qu'il y a des spectacles spécifiquement jeunes
publics? Est-ce qu'entre un public de 18 mois et un public de 6 ans, c'est vraiment... En plus, on peut dire que c'est un peu la même catégorie. Est-ce que l'écart n'est pas énorme en termes de...
C'est... on va pas... Enfin, je crois qu'on n'a pas le temps, de toute façon, de rentrer dans des choses un peu plus techniques, mais c'est quand même... Enfin, c'est pas... Ça dépend. Enfin, j'ai un peu envie de dire, ça dépend des formes. En même temps, à 6 mois, 1 an, 18 mois, c'est pas la même chose que... Enfin, c'est pas les mêmes qu'à 5 ans, quoi.
Grosso modo.
Oui, oui, non, mais bon, après, j'aime pas bien les tranches de saucisson, mais quand même, quoi. Enfin, c'est, tu vois, il y a la... Pardon.
Moi, je vais juste me permettre de dire qu'effectivement, peut-être on peut tenir compte quand même, on est obligé du développement psychomoteur, en fait, de voilà, ce que tu disais avec un enfant de 18 mois, un enfant de 5-6 ans qui a été en maternelle et tout. Bon, voilà. Donc, il y a des choses qui marchent pour tout le monde. Et puis, il y a des choses qu'on peut peut-être plus adapter, on peut peut-être aller plus loin. Voilà, c'est que sur les propositions, on peut ou pas en tenir compte. Donc, comme tu disais, ça dépend beaucoup de la proposition,
oui,
en fait.
Ils sont pas, oui, c'est pas le même, le même mode d'écoute. Oui.
Alors, on est un petit peu pris par le temps, puisqu'il est midi, donc Alexandre va être obligé de nous quitter voilà. Un petit peu en courant. On va le retrouver dans très peu de temps, là, voilà, puisqu'on va aller le rejoindre, en l'occurrence. Donc, j'ai la lourde charge de conclure.
Voilà,
merci. Voilà, donc moi, je voulais remercier les intervenants et notre public. Je pense que l'idée qu'on avait eu au départ avec Alexandre, c'était justement, quand j'avais contacté Brigitte, ce que j'ai expliqué, c'était d'essayer de parler de ce type de spectacle, ce type de travail, un peu du niveau du côté des créateurs. C'est-à-dire, il y avait peut-être de mon côté une envie aussi de dire aux compositeurs, aux créateurs, plein de gens, c'est un terrain à part entière, c'est vraiment un terreau très intéressant aussi pour votre travail, il y a plein de choses à faire. Donc je pense que là, la façon dont on l'a présenté, à la fois avec vos deux personnalités, on a compris les notions d'aller-retour, d'enrichissement des deux côtés. Donc ça, je pense qu'on a à peu près atteint notre objectif. La part de la création musicale d'Indan, je crois qu'elle est vraiment très importante et très intéressante. Voilà, je pense qu'au niveau de la rencontre, on a fait passer ce qu'on avait prévu de faire. Moi, je vous invite très rapidement, on va aller écouter donc, les jardins miniatures. Donc ça, c'est effectivement un spectacle de la compagnie Acoustea, donc, dont Alexandre est directeur. Et c'est une suite, je vais me permettre de présenter, puisqu'il est obligé de partir, c'est la suite du travail qu'il a fait sur Jardin de Sensations, et là, qui effectivement est orienté petite enfance. Et en fait, c'est une installation, si vous avez des gens après, qui est en fait en libre service, en autonomie totale, jusqu'à la fin du festival Classico Vert, c'est-à-dire dimanche prochain. Et en fait, tous les samedis et les dimanches à midi, ils vont être un petit peu en retard, ils vont nous attendre. Il y a une performance avec flûte. Voilà. Mais c'est pareil, vous allez voir, c'est un dispositif qui est à explorer, à s'approprier soi-même avec les enfants, hors du moment de cette performance. Voilà, ben, je vous remercie.
Merci. Merci. Ah oui, ça passe toujours très vite. Et tu lances une étude, David, avec un labo de socio-ethno.
Ah non, mais je voulais juste votre point de vue, je voulais non, pas forcément...